un journal qui vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine est de plus en plus probable. Le candidat démocrate peut maintenant compter sur 253 grands électeurs quand Donald Trump en a 214. L'écart s'est resserré en Géorgie. Nous irons à Atlanta juste après avoir fait un point sur les résultats avec Franck Madvon en direct de New York. Inculpé par le tribunal spécial de La Haye, le président du Kosovo démissionne. Il doit répondre de crimes de guerre durant le conflit contre les forces serbes à la fin des années 90. Explication de Laurent Rouy. Emmanuel Macron annonce le doublement des effectifs dédiés au contrôle des frontières. Le chef de l'État fait un rapprochement entre immigration clandestine et terrorisme. Nous analyserons ces déclarations avec Laura Dulieu. Les tests rapides de dépistage, outils indispensables pour tenter de contrôler l'épidémie de Covid-19. Les pharmacies se mobilisent. Reportage de Cécile Arbona. C'est une nouvelle longue journée aux États-Unis, toujours dans l'attente du nom du vainqueur à l'élection présidentielle. Comme le redoutait Donald Trump qui voulait stopper le décompte des voix, le démocrate Joe Biden a pris l'avantage et ne cesse de creuser l'écart. Franck Madvon, vous êtes à New York, d'où vous suivez l'évolution des résultats. Alors, ils sont encore loin d'être définitifs. On rappelle que les votes par anticipation ont atteint un niveau inédit cette année en raison de la crise sanitaire. Donc, le dépouillement se poursuit, Franck, mais la tendance se confirme en faveur du candidat démocrate.
Oui, 253 grands électeurs, toujours garantis, Aurélie, pour Joe Biden. Peut-être 264. Plusieurs médias comme Associated Press ou Fox News donnent l'Arizona à Joe Biden. Il y a encore une incertitude, on va rester prudent. Il reste 4 États clés qui n'ont pas rendu leur verdict après cela. La Caroline du Nord devrait revenir à Donald Trump. Les regards se tournent donc vers la Géorgie, la Pennsylvanie et le Nevada. En Géorgie, l'écart s'est considérablement resserré. 14 000 voix d'avance seulement au dernier décompte pour Donald Trump. Et cette marge a fondu au fil du dépouillement des bulletins par correspondance dans les comtés les plus démocrates, les villes, Atlanta notamment, la ville de Martin Luther King, le vote des nombreux Africains-Américains là-bas très favorable. Biden va jouer un rôle majeur. On espère un résultat dans la journée en Géorgie. La Pennsylvanie maintenant, Donald Trump ne restera pas à la Maison-Blanche sans la Pennsylvanie, 20 grands électeurs. Il a absolument besoin de cet État, même s'il gagne tous les autres, c'est insuffisant. Et là aussi, l'écart se resserre. Beaucoup d'analystes estiment que compte tenu des bulletins restants à dépouiller, Biden peut l'emporter et reprendre la Pennsylvanie perdue en 2016. Mais pour le candidat démocrate, un seul État pourrait suffire, le Nevada, 6 grands électeurs. Joe Biden peut atteindre le seuil des 270 avec le Nevada. Dans ces 3 États, Géorgie, Pennsylvanie, Nevada, des annonces sont attendues dans la soirée heure française.
Vous restez avec nous, Franck, le temps d'aller dans le sud-est des États-Unis retrouver Gaëlle Joly. Gaëlle, vous êtes à Atlanta, en Géorgie, l'un des États clés de cette élection présidentielle. Vous vous trouvez en ce moment devant un centre de décompte des voix du comté de Fulton.
Oui, c'est un État que les démocrates n'ont pas remporté depuis l'élection de Bill Clinton. C'était en 1992. Depuis la clôture des votes mardi soir, la Géorgie est plongée dans une attente interminable. Les deux candidats, vous l'entendiez, sont au coude à coude. Le décompte des voix se poursuit. Vous entendez dans la salle derrière moi, cette salle qui est envahie de journalistes. 14 000 voix d'écart seulement entre les deux candidats. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche et consciencieusement ici, sur de grandes tables recouvertes d'une nappe noire, on épluche un à un les bulletins arrivés par la poste, des bulletins que l'on dit favorables aux démocrates puisque ce sont ceux de la région d'Atlanta, terre bleue par excellence. Il y a donc des chances pour que Joe Biden coiffe au poteau Donald Trump. En 2016, le président l'avait emporté ici avec 211 000 voix d'avance sur Hillary Clinton, preuve de l'importance de la Géorgie. Hier, l'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé avoir déposé une requête afin que l'un des comtés de l'État écarte les bulletins de vote arrivés trop tard, une plainte qui scandalise ici les démocrates. Voilà, tous les regards sont tournés ici sur ce bureau de vote où je me trouve, d'où sortiront les résultats. Une attente fébrile et interminable dans cette grande salle au cœur d'Atlanta.
Gaëlle Joly, en direct d'Atlanta, en Géorgie. Je reviens maintenant vers vous, Franck Madvon. Même si Joe Biden parvient à décrocher aujourd'hui 270 électeurs, on imagine mal, Donald Trump reconnaître sa défaite.
Ben oui, parce qu'en fait, Donald Trump, il conteste même le dépouillement. Hein. Il a tweeté deux fois aujourd'hui « Stop the count », « Arrêtez le décompte ». Et il y a quelques minutes, il a affirmé, toujours sur Twitter, que des recours en justice seront engagés pour des fraudes dans tous les États revendiqués par Joe Biden. Ces tweets ont d'ailleurs été signalés par le réseau social. Le camp Trump martèle depuis la nuit de mardi à mercredi que le président élu est vainqueur. L'actuel président est en effet en tête dans plusieurs États, mais on l'a dit, Joe Biden grignote son retard. En fait, comme il l'a fait ces dernières semaines, Donald Trump jette le doute sur les votes par correspondance dépouillés en dernier qui sont dans l'ensemble plutôt favorables aux démocrates. Bataille judiciaire en vue donc pendant que le dépouillement se poursuit fébrilement, lentement dans chaque État restant.
Merci Franck Matvon en direct de New York. Les observateurs électoraux internationaux de l'OSCE accusent Donald Trump d'abus de pouvoir flagrant pour avoir justement demandé l'arrêt du dépouillement des bulletins de vote avant la fin du processus. Il répète que les accusations de manipulation formulées par le président sortant sont sans fondement. L'OSCE publie par ailleurs un rapport accablant sur les conditions de la réélection d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie. L'organisation décrit des falsifications de documents et des violations systématiques des droits de l'homme en réponse à des manifestations pacifiques. Elle appelle à annuler les résultats de l'élection présidentielle du 9 août. La démission surprise du président du Kosovo, Hashim Thaçi, ancien guérillero de la lutte pour l'indépendance, a été inculpé de crimes de guerre pour son rôle dans le conflit de 1998 et 1999 contre les forces serbes. Sa réputation avait été sérieusement entachée quand un rapport du Conseil de l'Europe en 2010 avait évoqué des liens possibles avec le crime organisé et les meurtres politiques de civils serbes, roms et d'albanais soupçonnés de collaboration avec Belgrade durant et après la guerre. Les précisions de Laurent Rouy.
Le président Hashim Thaçi était depuis juin sous le coup d'une inculpation conditionnelle des chambres spéciales pour le Kosovo, un tribunal basé à La Haye. Il avait alors promis, si cette inculpation venait à être confirmée, qu'il démissionnerait, ce qu'il a fait ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Hashim Thaçi a appelé au calme et à la patience. Il estime que son inculpation est un petit prix à payer pour, dit-il, la liberté du Kosovo. Le départ d'Hashim Thaçi laisse la présidence vacante. Il appartiendra à un parlement très divisé de lui désigner un successeur. Hashim Thaçi, ancien commandant de la guérilla albanaise de Luceca pendant la guerre en 1998-99, est inculpé de 10 charges de crimes de guerre et contre l'humanité, dont le meurtre de civils serbes et albanais dans des camps de prisonniers. Sur le même acte d'inculpation figure aussi le nom de Kadri Veseli, ancien président du Parlement du Kosovo. Kadri Veseli a annoncé ce jeudi son départ pour le tribunal. Par ailleurs, d'autres responsables politiques du pouvoir comme de l'opposition ont annoncé leur inculpation. Le phénomène devrait provoquer un électrochoc dans une société kosovare où les crimes commis par la partie albanaise restent un tabou depuis la fin de la guerre.
Laurent Rouy. En Côte d'Ivoire, le dialogue est toujours au point mort. D'un côté, le président Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat, samedi dernier avec 94% des voix. De l'autre, une opposition qui a boycotté le scrutin qu'elle jugeait illégal. Elle prévoyait de former un gouvernement parallèle, mais les domiciles de ses leaders ont été encerclés par les forces de l'ordre. Hier soir, l'ancien chef rebelle Guillaume Soro, en exil à Paris, a appelé l'armée ivoirienne à rejoindre l'opposition. La correspondance d'Amandine Réau à Abidjan.
Dans une allocution en ligne, Guillaume Soro appelle l'armée à agir contre le régime du président Ouattara.
Agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre constitution ses lettres de noblesse.
Ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro est en exil en France depuis un an. Accusé de tentative d'insurrection, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le pouvoir est particulièrement inquiet d'un nouveau scénario de mutinerie comme il y en a eu en 2017. C'est pourquoi des opérations policières ont été lancées contre l'opposition qui comptait former un gouvernement parallèle. Selon un ministre, le seuil de l'inacceptable a été franchi. On ne peut pas avoir deux ministères de la Défense. Semer le doute sur l'unité de l'armée, c'est la fragiliser, dit-il. La justice a d'ailleurs été saisie pour acte de sédition. La communauté internationale, elle, prône le dialogue. La France appelle tous les acteurs à mettre fin aux provocations et actes d'intimidation qui perdurent depuis le scrutin. L'état de droit doit prévaloir, selon le Quai d'Orsay. Alors la médiation pourrait-elle passer par Laurent Gbagbo? L'ancien président s'est entretenu au téléphone avec le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko en vue de décrisper le climat politique, a fait savoir son avocate.
Dans un contexte marqué par les attentats djihadistes en France et en Autriche, Emmanuel Macron veut montrer la force de son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui à Pertuis, à la frontière espagnole, et il a fait plusieurs annonces, Laura Dulieu, sur le terrorisme et l'immigration clandestine.
Oui, plusieurs annonces, à commencer par le doublement des effectifs de contrôle à la frontière franco-espagnole, effectifs qui vont passer de 2400 à 4800. 4 unités mobiles sont en cours de déploiement au col du Pertus, selon le chef de l'État, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du secrétaire d'État chargé des affaires européennes Clément Beaune. L'objectif affiché, c'est de renforcer la coopération européenne dans la lutte contre le terrorisme de plus en plus souvent lié à l'immigration clandestine, selon le président français.
Lutter efficacement contre ce terrorisme islamiste, c'est lutter également contre des réseaux de trafiquants qui ont des liens avec ces terroristes, qui parfois sont des terroristes eux-mêmes, qui utilisent le trafic de stupéfiants et le trafic d'êtres humains pour renforcer leur action et parfois agir directement.
Et dans ce sens, Emmanuel Macron s'est dit favorable à une refondation en profondeur des règles de l'espace Schengen et à un plus grand contrôle des frontières, intérieures donc, mais aussi extérieures. La proposition sera faite lors du Conseil européen de décembre. Pour rappel, l'attentat de Nice a été commis par un jeune Tunisien arrivé clandestinement à Lampedusa, tandis que l'homme à l'origine de l'attaque de Vienne avait été signalé par la police slovaque. L'idée, c'est bien de renforcer l'échange d'informations entre les pays et au niveau national, des lois seront prises si nécessaire, selon le chef de l'État, mais pas question de changer la Constitution, comme le demandent des responsables de droite et d'extrême droite. La situation ne le justifie pas, selon Emmanuel Macron.
Sid Ahmed Glam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la première fois ce matin, l'étudiant algérien a exprimé des regrets sur son parcours, mais il n'a pas reconnu les faits. L'attentat avorté contre une église de Villejuif dans le Val-de-Marne et l'assassinat d'une jeune mère de famille en avril 2015. Pour rendre le confinement plus efficace à Paris, certains points de vente à emporter vont devoir fermer à 22h. La pression est actuellement très forte sur les hôpitaux d'Île-de-France qui voient affluer les patients touchés par le Covid-19. En Île-de-France, déclare le directeur général de l'Agence régionale de santé, plus de 4000 malades sont en réanimation et il appelle les franciliens à mesurer l'urgence et à réduire massivement leurs interactions sociales. Les premiers syndicats du secondaire et du primaire appellent à une grève sanitaire le 10 décembre pour dénoncer un protocole sanitaire qu'ils jugent insuffisant pour freiner l'épidémie. Ils demandent en urgence de nouvelles mesures. Ils expriment aussi leurs inquiétudes concernant l'organisation du baccalauréat à Kim Kasmi.
Au lycée, avec la réforme du baccalauréat, difficile de mettre en place le non-brassage des élèves en cours, à la cantine ou encore dans les couloirs. C'est pourquoi le SEUNSA demande au ministère de l'Éducation de revoir les modalités du bac, au moins pour les classes de première, en annulant les épreuves communes et de spécialité prévues cet hiver et au printemps. Claire Crépère, sa secrétaire nationale.
Le contrôle continu, c'est la seule façon de s'assurer qu'on peut évaluer les élèves sur ce qu'ils ont fait réellement. Alors que dès qu'on choisit l'option sujets nationaux uniques qui s'impose à tous, on va être confronté à des difficultés puisque tous les élèves n'auront pas couvert les mêmes parties du programme, sans doute à la fin de cette année scolaire.
Un protocole sanitaire qui pose aussi des difficultés dans les lycées professionnels, notamment dans les disciplines où il faut travailler en atelier, comme pour faire de l'usinage ou de la mécanique. Au lycée professionnel Paul Bert, à Maison-Alfort en région parisienne, la moitié des enseignants ont exercé leur droit de retrait depuis mardi afin de demander la mise en place de demi-groupes, ce que refuse pour l'instant le rectorat. Gaëtan Ferrer, professeur d'histoire et de français au lycée Paul Bert.
Pour l'atelier, ils doivent utiliser les mêmes outils pour pouvoir aller installer les pièces sur leur machine. Et donc, ils sont obligés d'utiliser le gel, hein, puisque ça, on a un impératif là-dessus. Mais on ne peut pas nettoyer chaque outil entre chaque passage de main d'un élève à l'autre.
Face à ces difficultés qui sont loin d'être des cas isolés, selon nos informations, Jean-Michel Blanquer devrait annoncer dans la soirée un cadrage national afin de mettre en place un système hybride au lycée combinant du présentiel et du distanciel.
Hakim Kasmi. Pour l'Organisation mondiale de la santé, les écoles ne doivent être fermées qu'en dernier ressort. Il n'y a pas de raison de dire qu'elles sont l'un des principaux vecteurs de la transmission du virus. Mais l'OMS appelle à ne pas relâcher les efforts. L'Europe connaît actuellement une explosion des cas, 1 million de cas supplémentaires en seulement quelques jours. Face aux chiffres préoccupants, les critiques fusent en France contre le deuxième confinement qui ne serait pas assez efficace, qui ne frapperait pas assez fort. Alors y a-t-il aujourd'hui des pistes à privilégier pour réussir à reprendre le contrôle sur l'épidémie? Mathieu Laurent a joint Lise Bourdeau-Lepage, professeure de géographie à l'Université Lyon 3. Elle est chercheuse au laboratoire Environnement, Ville, Société du CNRS. Et aujourd'hui, alors que certains appellent à de nouvelles mesures, elle appelle à la patience.
Est-ce que vraiment il faut de nouvelles mesures? Parce qu'on sait qu'il faut environ 15 jours pour avoir les effets de ce nouveau confinement sur la propagation du virus. Donc en fait, on a l'impression qu'on est dans un monde qui ne laisse pas le temps au temps et qu'il y a une accélération continue et puis que on s'attend à ce que l'effet soit instantané. Ce n'est pas du tout le cas. Alors évidemment, il y a d'autres éléments qui peuvent peut-être expliquer le fait qu'on a le sentiment que les Français ne respectent pas ce confinement et qu'il faut le durcir. C'est d'abord qu'il y a quand même une confusion ambiante dans la société française. Il y a une cacophonie, en fait, avec des annonces faites, puis démenties. Il y a la rumeur qui circule, justement, sur le fait que le confinement va bientôt être total. Donc, du coup, les gens, ils en profiteraient peut-être un peu. Le manque, vraiment, de transparence face aux choix qui sont opérés, les mesures qui sont prises par le gouvernement. Et du coup, dans un moment où on a une difficulté de gestion parce que l'épidémie, on est face à une très grande incertitude, moi je pense que la première mesure à prendre avant de durcir les modalités de ce confinement, ça serait de faire preuve de plus de pédagogie, d'expliquer aux Français ses choix, de ne pas les infantiliser, de reconnaître ses erreurs et surtout de consulter la société civile. Si on consulte la société civile, qu'on explicite mieux les choix, qu'on admet des erreurs, qu'on dit qu'on est dans un moment d'incertitude et que du coup on explique finalement la situation comme il faut aux Français en leur disant que on prend des mesures au fur et à mesure de l'évolution de la situation, à ce moment-là il est possible que les Français adhèrent ou comprennent mieux les propositions du gouvernement. Puis faut attendre, laisser le temps au temps.
Lise Bourdeau-Lepage, chercheuse au laboratoire Environnement, Ville, Société. Se laver les mains et porter un masque et rester à distance les uns des autres et ouvrir les fenêtres. C'est l'addition des gestes barrières qui permet réellement de limiter les risques. Les tests font également partie des outils essentiels dans la lutte contre la pandémie et certaines pharmacies mettent maintenant à disposition les tests rapides de dépistage. Reportage à Boulogne-Billancourt de Cécilia Arbona.
Peu d'officines dans un rayon de 2 ou 3 kilomètres autour de mon appartement proposent ces tests antigéniques. Il faut du personnel formé et puis un local dédié. Oui, c'est toute une organisation, reconnaît Clément Bourbigaud. Il est propriétaire de la pharmacie centrale de Boulogne-Billancourt.
Il y a des gens qui sont cas contact, il y a des gens qui sont symptomatiques, il y a des gens qui nous sont envoyés par les médecins aussi. Il y a les cas des écoles aussi qui vont demander des tests pour que les enfants reviennent.
Nous le suivons au premier étage de la pharmacie, derrière la réserve.
Bonjour mademoiselle.
Qui est étudiante en médecine et donc qui s'occupe de ça pour être positif. Quelqu'un qui est venu et qui est positif, donc là je vais
l'appeler. Et la personne n'a pas attendu, non?
Non, on leur dit de partir parce que normalement on n'a pas accès à cette salle-là. Après, toutes les personnes positives, nous on les rappelle dès qu'on a le test, sous 20 minutes.
À l'extérieur, une femme patiente sur le trottoir, elle s'appelle Delphine. Elle a 41 ans et elle se sent mal depuis 2 ou 3 jours.
J'ai 2 enfants et mon mari qui continue à se déplacer au travail. Donc pour éviter de contaminer tout le monde, même si c'est peut-être déjà fait, c'est pas mal. Après, c'est très cadré, il faut passer par un labo. Sinon, il ne m'aurait pas pris.
Pour éviter de transformer sa pharmacie en nid à microbes, Clément Bourbigaud aimerait pouvoir tester les gens là, dehors, sur le trottoir.
Là, ça pourrait être mieux. On pourrait avoir l'attente ici. C'est 4 mètres carrés, 2 sur 2. C'est pas quelque chose de grand, mais ça serait encore plus sécurisant et ça permettrait que ce soit visible à la population et de tester un maximum de gens.
La ville de Boulogne-Billancourt répond ce soir que ce n'est pas à elle d'accorder ou pas ce genre d'autorisation. Elle renvoie sur le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pour le moment fait aucun retour.
La France réalise actuellement plus de 2 millions de tests par semaine et plus de 20% des tests reviennent positifs. Le gouvernement va prendre en charge les frais d'envoi des livres commandés auprès des libraires indépendants pendant la durée du confinement, un dispositif destiné à les aider à poursuivre leur activité à travers la vente en ligne. Le secteur de la librairie et de l'édition avait plaidé pour l'application la plus rapide possible de cette mesure face à la concurrence de plateformes en ligne offrant des tarifs d'expédition extrêmement bas, principalement Amazon. Amazon cible des critiques des petits commerçants et qui réagit, Annabelle Crelier, et tente d'éteindre les polémiques.
C'est tout de même une campagne de communication que s'offre Amazon dans les médias français. Alors que les petits commerçants sont sommés de fermer pour cause de confinement, il y a de quoi regarder le commerce en ligne avec envie et jalousie. À la différence cette fois, et qu'ils ne sont pas les seuls, la grande distribution est aussi en colère. Le gouvernement ne serait-il pas en train de favoriser l'e-commerce? Par exemple, quand il suit les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, qui demande l'instauration d'un moratoire sur les zones commerciales en périphérie des villes, le gouvernement retient la proposition, mais exclut de ce moratoire les entrepôts de l'e-commerce. Tout comme leur agence de livraison et leur centre de tri, étant considérés comme des établissements industriels, ils n'ont pas à payer la taxe sur les surfaces commerciales pour les bâtiments de plus de 400 mètres carrés. Et enfin, à noter que l'e-commerce va également profiter de la réduction de moitié des impôts de production prévus dans le budget 2021 par le gouvernement. Cela fait beaucoup de couleuvres à avaler pour les petits commerçants et la grande distribution qui, après s'être longtemps opposés, se retrouvent aujourd'hui dans le même camp, celui des perdants face au géant Amazon qui ne cesse de gagner des parts de marché en France. 20 projets sont aujourd'hui en attente d'autorisation, le plus symbolique étant le méga entrepôt au nord de Mulhouse, en Alsace, qui prévoit le bétonnage de 15 hectares de terres agricoles et provoque un tollé chez les élus locaux.
La météo, du soleil partout demain, sauf dans le sud-ouest où le temps sera gris et parfois pluvieux. Les températures seront en hausse. En journée, il fera 9 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 22 au sud. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon.